Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachamo. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien au Capi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Nous allons parler aujourd'hui des cancers pédiatriques, comment lutter contre les cancers pédiatriques en République démocratique du Congo. Nous allons en parler dans la première partie de cette émission de la vie au quotidien. Et dans la seconde partie de cette émission, on va s'intéresser au domaine de l'agriculture. Nous savons que c'était à Kinshasa, les états généraux de l'agriculture. Alors, comment promouvoir, relancer l'agriculture en RDC dans ce contexte de changement climatique? Nous allons aborder le thème dans la seconde partie de cette émission à partir de 11h05, heure de Kinshasa. Vous voulez participer à ce magazine de la vie au quotidien? Appelez déjà au 081-890-6394. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Tatima Poukou assure la coordination de cette émission. Célestine Massoudi à la réalisation. Polydor Bansunga à la technique. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama. Tout le plaisir pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix et excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Okapi. Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Mesdames et messieurs, encore une fois bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Aujourd'hui, nous parlons des cancers pédiatriques. Quelles sont les causes, signes et prise en charge? Eh bien, vous savez, le cancer de l'enfant demeure un problème de santé publique en République démocratique du Congo. Le taux de mortalité est encore lourd, selon les experts. Ce cancer a la particularité de se développer très rapidement, bien que sensible à la chimiothérapie. Selon les experts, l'enfant atteint du cancer peut survivre si le diagnostic est posé précocement et les traitements entrepris à temps. Mais ce sont surtout les cancers de l'œil, du cerveau et du sang qui sont couramment documentés, selon les données des cliniques universitaires de Kinshasa. Alors, pour en savoir plus, nous avons en ligne Dr. Enengi Yulu Makwala. Il est chef de département en pédiatrie aux cliniques universitaires de Kinshasa et chef des services d'hémato-oncologie pédiatrique. Dr. Enengi Yulu, bonjour. Dr. Enengi Yulu, bonjour.
Bonjour, 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 cher ami. Heureux de vous... De parler avec vous.
D'accord. Bienvenue dans cette émission qui s'intéresse au cancer pédiatrique. Alors, docteur, la première question est de savoir quel état des lieux vous faites des cancers, des cancers de l'enfant dans notre pays.
L'histoire de mon cas. En tout cas, nous avons une centaine de cas qui nous arrivent chaque année, des différents cancers. Mais naturellement, il y a les cancers les plus fréquents qui existent, notamment le fameux rétinoblastome. Le cancer donc
de l'œil,
oui. Il y a beaucoup d'autres cancers, le cancer des reins, qu'on appelle néphroblastome. Il y a la leucémie. Il y a tout un tas de cancers qui existent chez nous, que nous recevons chaque année. En tout cas, nous avons chaque année une centaine de cas.
Voilà, chaque année, une centaine de cas des cancers de l'enfant aux cliniques universitaires de Kinshasa. Alors, quelles sont les causes des cancers chez l'enfant, docteur?
Les causes de cancer sont... le cancer de l'enfant, disons, les causes ne sont pas toujours bien connues. Hein. Mais, bon, nous savons qu'il y a des facteurs favorisants. Les facteurs favorisants sont les radiations ionisantes, certaines substances comme les hydrocarbures. Il y a également des cancers qui proviennent de... Il y a des cancers qui sont d'origine génétique, hein, parce que, bon, tu nais avec, hein, parce que les parents, t'ont envoyé des gènes qui sont favorables au cancer. Mais il y a des cancers qui apparaissent de façon spontanée, et donc c'est ça la situation.
Voilà, on va déjà accueillir un premier auditeur dans cette émission, Glody Bouanganga depuis Bandundouville. Bonjour Glody.
Bonjour Monsieur Jody Daniel Kachama, bonjour Monsieur l'invité.
On vous écoute.
Oui, merci pour la parole accordée. Je pense que l'invité n'a pas bien vraiment explicité. S'il peut vraiment nous expliquer, parce que généralement, si nous regardons chez les enfants, il y a beaucoup de cancers qui attaquent souvent nos enfants. Alors si l'invité peut nous expliquer les symptômes et les signes pathologiques qui peut prouver, voilà, tel cancer chez les enfants de tel âge, ça commence, par exemple, de telle période, par exemple, voilà les symptômes qui commencent, voilà, s'il peut vraiment nous expliquer, enfin, on puisse bien comprendre, parce que généralement, il y a beaucoup de cancers, mais les cancers qu'il est en train de parler, il n'a pas vraiment bien détaillé les cancers, parce que nous, on n'est pas du domaine, on ne peut pas savoir, mais s'il peut vraiment nous expliquer, vraiment, on puisse bien comprendre. C'est ça ce que j'ai voulu poser comme question.
Bien, merci. Merci, Glody de Bandundouville. Malonga, vous êtes aussi dans la même ville. Bonjour.
Oui, bonjour, Jody. Et bonjour à notre invité, tout à connotive.
Quelle est votre préoccupation?
Bon, je me suis dit d'abord, ici, il y a une crainte de pluie, s'il vous plaît. Bon, oui, la radio a été... Vous pouvez me rappeler de quoi encore nous sommes?
D'accord, on va vous reprendre tout à l'heure. Nous sommes en train de parler des cancers pédiatriques. Alors, je reviens à vous, docteur Ngiyulu. Il y a Glody de Bandundu qui veut savoir quels sont les signes qui peuvent nous aider à comprendre qu'il s'agit de tel ou tel autre type de cancer qui attaque l'enfant.
Eh ben, écoute, merci beaucoup pour la question. Bien entendu, il y a des signes pour le cancer de l'enfant. Il y a l'enfant d'abord est un personnage en développement. Et donc les cancers des enfants sont des cancers qui sont d'abord rapidement progressifs, mais heureusement guérissables. Les cancers des enfants proviennent parfois de l'embryon, depuis la conception de l'enfant, avec des mutations, comme j'ai dit, il y a des cancers d'origine génétique. Hein? Un des cancers de ce genre, c'est le rétinoblastome. Le rétinoblastome, c'est un cancer de l'œil. Eh bien, non, c'est un cancer qui apparaît rapidement dans la jeunesse. Et dans la plupart des cas, on les diagnostique aux environs de 3-4 ans. Hein? Mais on peut les découvrir également très tôt, le rétinoblastome. De quoi s'agit-il? Le rétinoblastome, pour le découvrir, ben vous allez voir que l'enfant a un reflet brillant de l'œil, un reflet chatoyant de l'œil. Donc il y a l'enfant une tache blanchâtre, hein, et quand vous voyez ça rapidement, il faut venir voir le médecin, parce que cette tache blanchâtre-là n'est pas normale. Le rétinoblastome peut se manifester également par ce qu'on appelle un strabisme. Un strabisme, ça veut dire que les yeux, au lieu de regarder dans la même direction, il y a un œil qui regarde d'un côté et l'autre...
De l'autre côté,
oui. Voilà. Donc ça, on appelle ça strabisme. Alors, parfois, à cause de l'inflammation due au cancer, l'œil peut paraître tout rouge. L'œil rouge, quand vous voyez un œil qui se tuméfie comme ça, sans motif, hein, il faut venir voir le médecin. Voilà les manifestations du cancer de l'enfant, du rétinoblastome.
Rétinoblastome. Alors aujourd'hui, au lieu de parler de tous ces cancers-là, focalisons-nous sur le cancer de l'œil, qu'on appelle rétinoblastome. Alors vous avez évoqué, quels sont les facteurs favorisant de ces cancers? Est-ce qu'on peut dire que l'hérédité ou le mode de vie est à la base de cela?
Certainement pas. Mode de vie, non. Je vais vous donner ma collaboratrice qui est experte dans ce domaine. Et donc, elle va vous expliquer comment apparaît le rétinoblastome. Le rétinoblastome est d'origine génétique. Mais elle va mieux parler que moi. Docteur Domo, vous avez la parole.
Bien. Nous allons écouter Docteur Domo qui s'occupe aussi des cancers pédiatriques au clinique universitaire de Kinshasa. Docteur Domo, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission qui s'intéresse aux cancers pédiatriques et particulièrement au cancer de l'œil qu'on appelle rétinoblastome. Alors, quels sont les facteurs qui favorisent ces cancers chez les enfants?
Alors, pour le rétinoblastome, comme venait de le dire le professeur, c'est un cancer qui est lié, l'origine est génétique, avec des anomalies génétiques. Donc, il se manifeste plus tôt. Ça peut être dès la naissance, à la petite enfance, dès la naissance, mais jusqu'à l'âge de 5 ans. Donc, dans cette tranche d'âge-là, on peut développer le rétinoblastome chez certains enfants.
Voilà. Et docteur a donné les signes tout à l'heure. Il y a le reflet brillant de l'œil, le strabisme, les rougeurs de l'œil, etc. Et généralement, c'est à quel âge que ces signes apparaissent chez l'enfant?
Alors, ça peut apparaître très tôt. Donc, ça veut dire à la naissance, déjà, les parents peuvent remarquer. Et là, lorsque c'est précoce, on a cette tache blanchâtre qu'on appelle les cocories, ou encore l'œil de chat, parce que cette tache, elle est brillante dans le noir, comme se présente l'œil d'un chat dans l'obscurité. Alors, c'est pour ça qu'on peut l'appeler grossièrement l'œil de chat, mais médicalement parlant, on parle de la leucocorie. Ou encore, par rapport à l'inflammation des cellules cancéreuses, l'enfant peut présenter une rougeur au niveau de l'œil ou un strabisme. Mais il est très important, justement, dans le cadre du diagnostic précoce, de pouvoir sensibiliser les parents ainsi que les personnels de santé dès l'enfance, comme c'est une tumeur de la petite enfance qui apparaît très tôt, de pouvoir déjà le rechercher.
Bien, on va accueillir un auditeur, Safari, depuis l'Itouri. Bonjour, Safari.
Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs du jour.
On vous écoute.
D'accord. Comme on parle de cancer pédiatrique, j'aimerais savoir, il y a combien d'étapes, donc de stades de cette maladie, et puis à quel stade est-ce que elle peut être soignable? Est-ce qu'au niveau de la RDC, les gens peuvent être capables de soigner cette maladie? Merci.
Bien, merci. Safari qui veut connaître quels sont les stades de l'évolution de la maladie, à quel stade ce cancer de l'œil peut encore être soigné. Docteur Daumont.
Oui, alors le stade de la maladie, le stade précoce que nous appelons le stade intraoculaire, ça veut dire que la tumeur est encore au niveau de la rétine. Cela est facilement prise en charge. Alors là, la vue peut être conservée. Parce que dans la prise en charge, il est question de conserver non seulement la vue, mais aussi la vie. Donc, quand c'est intraoculaire et qu'il n'a pas encore envahi les autres structures de l'œil, cela peut guérir facilement. Mais lorsqu'il devient extra-oculaire et extra-orbitaire, on voit l'œil qui est ressorti. Cela devient assez difficile de pouvoir guérir cet œil-là. Alors la prise en charge devient plus compliquée. Il y a non seulement la chimiothérapie pour ce genre de cas, de stade, mais aussi il faut faire appel à la radiothérapie pour une prise en charge complète.
Donc on peut dire qu'il y a deux stades dans l'évolution de cette maladie, de cette tumeur.
Oui, il y a deux stades dans l'évolution de la maladie. Dans le stade où c'est intraoculaire, avec conservation de la vue, l'enfant voit encore, mais lorsqu'il devient extra-oculaire et extra-orbitaire, il perd complètement la vue. Alors dans ce cas-là, il est pratiquement impossible de pouvoir sauver la vue qu'il n'est plus. Donc on va se battre pour conserver la vie plutôt. Voilà.
Bien, on va se battre pour conserver la vie. Alors, on va accueillir un autre auditeur, Christian depuis Kananga. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Quelle est votre préoccupation?
Ok, moi, je voulais juste ajouter un petit lien par rapport au cancer de l'enfant. Le cancer de l'enfant ne ressemble pas du tout à celui de l'adulte. Ils sont d'abord plus rares et représentent 1 à 2% de l'ensemble des cancers. Notamment chez nous, en RDC, on peut évoquer le cas de leucémie. Donc, les tumeurs du système nerveux central et lymphome sont les principales pathologies cancéreuses rencontrées chez les moins de 15 ans. Et aussi beaucoup plus, les cancers qui sont beaucoup plus fréquents chez l'enfant, les leucémies représentent environ 30% de toutes les pathologies malignes. Donc, devant les tumeurs du système nerveux central, 25% et le lymphome. Les causes beaucoup plus, il n'y a pas souvent une prédisposition génétique. Il y a certaines causes qui sont acquises et certaines causes qui sont congénitales. D'où, j'aimerais suggérer à notre invité du jour d'initier beaucoup plus que tous les séances de sensibilisation dans nos communautés pour apprendre à nos parents, donc à toute nos communautés, comment prévenir les cancers et aussi beaucoup plus prendre des dispositions par rapport au traitement lorsque la maladie s'est déjà installée.
Bien, merci. Docteur Daumont, qu'est-ce que vous pouvez dire à Christian?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec l'auditeur de tout à l'heure. Donc, selon le type de cancer de l'enfant, comme il avait commencé à dire le professeur, c'est vrai qu'il occupe, on a 1 à 2%, il est peut-être minoritaire, mais là, vous voyez que par an, nous recevons 100 nouveaux cas. Et la sensibilisation est très importante. Et les types de cancer varient selon l'âge. Pour le rétinoblastome, on l'a dit de 1 à 5 ans, mais il y a le néphroblastome aussi qui varie aussi de 0 à 5 ans. C'est la tumeur du rein, la tumeur la plus fréquente du rein chez l'enfant. Mais nous avons aussi les leucémies, selon les leucémies aiguës que nous retrouvons très souvent chez les enfants. Mais il y a aussi les lymphomes, selon les différents types de lymphomes, ça dépend de l'âge. Par rapport au sous-typage et groupage de ces lymphomes. Alors, pour la sensibilisation, nous sommes en train de pouvoir, on est en pleine organisation pour commencer une sensibilisation pour les signes précoces des différents types de cancers auprès des professionnels de santé qui, par la suite, pourront faire les cascades jusqu'au niveau de la population. Donc, d'ici le mois prochain, cela sera mis en place parce que plus tôt il est diagnostiqué, mieux il est pris en charge. Surtout que le cancer de l'enfant est à 90% chimiosensible, donc nous avons beaucoup de chances de pouvoir guérir ces enfants.
Voilà. Alors dites-nous, docteur, généralement les cas que vous recevez par exemple aux cliniques universitaires de Kinshasa, les parents viennent généralement à quel stade de la maladie?
Alors, par exemple, pour le rétinoblastome, parce que là, c'est la tumeur, dans les 100 cas reçus par an, c'est la première tumeur, c'est la tumeur qui occupe la première place. Donc, pour les 100 cas reçus, on a au moins 70 cas de rétinoblastome par an. Alors, dans les 70 cas, nous avons au moins plus de 50% sont des tumeurs extra-oculaires. Et extra-orbitaire, donc déjà dans un stade très avancé. Alors que c'est une tumeur qui peut facilement être diagnostiquée à temps, parce que les parents peuvent facilement le reconnaître les signes précoces et aller consulter. Donc, souvent, dans la plupart des cas, il nous arrive de les accueillir dans un stade très avancé. Ça, c'est pour le rétinoblastome. Pour le néphroblastome, par contre, comme le signe, on a une masse abdominale qui parfois peut être prise comme une masse, en tout cas, très rarement, on pense à une tumeur rénale. opérer d'emblée, alors que la prise en charge peut d'abord débuter autrement, et ce qui crée des récidives. Donc, il arrive que nous le recevons dans un stade avancé. Et pour les leucémies, comme les leucémies ont des formes un peu frustres, avec des types, avec les signes infectieux, avec une fièvre au long cours et un tableau de polyadénopathie qui souvent est prise en charge comme une tuberculose. Donc, dans le temps, nous recevons ces enfants très tardivement aussi. Donc, la sensibilisation a une grande place dans la prise en charge de cancer de l'enfant.
Bien. Alors, quelqu'un est revenu sur les traitements. Comment s'est fait la prise en charge de ce cancer?
Alors, la prise en charge, déjà au niveau du service, c'est un service qui travaille, en tout cas, on peut dire 24 heures sur 24, parce que le cancer de l'enfant est une urgence. Donc, on travaille en urgence. Il y a un service qui est disponible dès suspicion d'un cancer, on nous le transfère où que ce soit. On est en contact. On peut bien nous transférer ces enfants. Et on commence dès lors la mise en place du diagnostic qui, on peut le dire, est un peu compliqué parce que les infrastructures ne sont pas toujours ce qu'elles sont. Nous n'avons pas assez de moyens, mais avec le peu de moyens que nous avons et avec les appuis de certains partenaires dans les dents des anticancéreux, en tout cas, nous arrivons quand même à prendre en charge le 5 cancers le plus fréquent chez l'enfant. Donc, notamment le rétinoblastome, qui est le cancer de la rétine, le néphroblastome, le cancer du rein, le lymphome, surtout les lymphomes de Burkitt, et les leucémies aiguës, la maladie d'Hodgkin, donc le lymphome Hodgkinia. Voilà.
Bien, nous parlons aujourd'hui du cancer, des cancers chez l'enfant. On va accueillir un auditeur, Benjamin Bahati, depuis l'Itouri. Bonjour, Benjamin.
Oui, bonjour, cher Évité et la radio Kapi.
On vous écoute.
On parle aujourd'hui des cancers de l'enfant, mais je voudrais demander à l'Évité, quels sont les facteurs favorisants des cancers de l'enfant? Et puis, ici, nous sommes à l'Itouri, nous trouvons des enfants par-ci, par-là, dans les rues. Et les enfants dorment dans des conditions vraiment très, très, très déplorables qu'on n'était même pas accepté. C'est comme si le gouvernement n'existe pas. Est-ce que cette condition dans laquelle les enfants de l'Itouri se retrouvent aujourd'hui ne peut pas être à la tête aussi de la création ou bien du développement des cancers de l'enfant?
Pardon, quelle est la question?
La question, c'est qu'aujourd'hui, en Itouri, les enfants se sont épargnés dans les différentes rues et dorment dans des conditions vraiment déplorables. Vous allez trouver très tôt matin, les enfants sont en train de dormir dans les différentes rues, dans de mauvaises conditions. Mais nous demandons le gouvernement, mais ici, comme on est dans l'état de siège, le gouvernement de l'état de semaine même ne voit pas cela. Est-ce que ça
D'accord.
ne peut pas conduire...
Merci. Est-ce que ça ne peut pas contribuer à l'éclosion des cancers? Merci. Pascal Betou, depuis l'ICASI. Bonjour.
Bonjour, monsieur les journalistes.
Quelle est votre question par rapport au cancer pédiatrique?
Je voudrais demander à nos invités si l'environnement peut être la cause des cancers chez les enfants. Parce que on observe ces derniers temps à l'ICASI que l'acide, étant donné que l'ICASI d'abord c'est une ville de transit, il y a des minéraux qui quittent Kolwezi pour Lubumbashi, il y a aussi de l'acide qui quitte Lubumbashi pour Kolwezi en fin de lavage de minerais. Mais il se fait que c'est l'acide qui traverse la ville de l'ICASI se déverse sur la voie publique. Elle se sèche. Et quand le véhicule passe, la poussière qui entre dans les yeux, ça chatue comme vous n'avez pas idée. Alors, j'aimerais savoir si ça peut être une cause de cancer de l'œil chez les enfants. Et je profite aussi cette occasion pour alerter vraiment l'attention des autorités provinciales, en fait qu'ils aient une attention particulière par rapport à la responsabilité de ces acides qui se déversent sur la voie publique.
D'accord.
Et qui peut impacter la santé.
Bon, on va, docteur nous dira si ces acides-là peuvent. Oui. D'accord, merci beaucoup. Alors, docteur Ngulu est maintenant avec moi dans ce studio. Encore une fois, bonjour, docteur.
Bonjour, cher.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs? Est-ce que au Katanga, à l'Ikasi, c'est l'acide peut être à la base du cancer, des cancers chez l'enfant, ou le fait que les enfants dorment à la belle étoile.
Bon, à la belle étoile, ça c'est un peu difficile à pouvoir répondre à cette question. Oui. Mais en ce qui concerne l'environnement, ça c'est une belle question. Je pense que l'environnement doit jouer un rôle important dans l'éclosion des maladies. Vous savez que, comme nous l'avons dit, le cancer de l'enfant, disons le rétinoblastome. Nous parlons de rétinoblastome aujourd'hui.
Oui.
Eh bien, c'est une maladie génétique, mais cette génétique là est influencée par l'environnement. Et nous avons dit que les hydrocarbures, nous avons dit que les virus, les radiations ionisantes, il y a tout un tas d'éléments qui se trouvent, disons, dans la nature et qui peuvent influencer l'éclosion des cancers, notamment du rétinoblastome. D'autant plus que il y a des cas où on ne retrouve pas, disons, des mutations au niveau des gènes et qu'on appelle donc rétinoblastome de nouveau. Donc, de nouveau, ça veut dire, bon, c'est d'apparition sans motif, si vous voulez. Mais le motif, il doit y avoir un motif. Certains, probablement qu'il faut aller le rechercher dans la nature.
Donc, on a suivi tout à l'heure que sur les 100 cas que vous recevez chaque année, il y a au moins 70% des cas des rétinoblastomes.
En tout cas, pour le moment, c'est le cancer le plus fréquent. Dans le temps, parce que nous devons aller, je suis un vieux médecin, et donc je connais très bien les structures des cliniques universitaires. Dans le temps, du temps du professeur Eckels, c'est le premier pédiatre qui est arrivé à Kinshasa, en 1960, eh ben, tout le temps qu'il était ici, le premier cancer de l'enfant, c'était la leucémie aiguë lymphoblastique.
C'est-à-dire
Leucémie, c'est, je dirais, vulgairement, cancer de sang.
Ok.
Oui, cancer de sang, ce sont les leucémies. Et alors après, nous avons constaté l'éclosion de ce qu'on appelle le lymphome de Burkitt. Lymphome de Burkitt, c'est un cancer assez spécial qui apparaît au niveau des maxillaires des enfants, les joues des enfants. Donc vous voyez un enfant qui brusquement commence à avoir des joues qui se tuent, ou une joue qui gonfle
volume,
avec des organisations de l'architecture dentaire. Ce cancer là, d'après les études, va éclore à partir de certains éléments. Et ces éléments sont un virus spécial qu'on appelle le virus d'Epstein-Barr, il y a la malnutrition, mais il y a également le paludisme. Et je vous raconte une anecdote, parce que le professeur Eckels, qui était ici à Kinshasa en 1960, n'avait guère vu le cas de lymphome de Burkitt. Alors, un bon matin, il reçoit Monsieur Burkitt. Monsieur Denis Burkitt, c'est un chirurgien anglais qui est arrivé en Ouganda, en Kampala, en 1957, et qui a constaté qu'il y avait plein d'enfants qui avaient cette tuméfaction, ce cancer-là. Et en faisant des études, il a vu que le fameux virus d'Epstein-Barr était prédominant dans la plupart des cas. Alors, il a entrepris ce qu'il a lui-même appelé un safari tumeur. Safari tumeur, d'où on a commencé, dans le temps, les routes étaient entretenues. Et donc, M. Burkitt est parti de Kampala, il a sillonné toute la zone jusqu'à arriver à Kinshasa. Il arrive à Kinshasa, il rencontre le professeur Eckels, qui était pédiatre. Il demande à pédiatre, voilà, il a montré les photos, mais le professeur Eckels n'avait jamais vu un cas de Burkitt. Ils sillonnent la ville, ils vont à l'hôpital général, ils vont à Kisantou, ils vont, je crois, à Kikwit, etc. Pas de Burkitt. Alors, pour Eckels, ce qu'il me dit à moi, parce que c'est à moi qu'il a dit ça, il dit, bien, dans le temps, on pulvérisait les rivières. Il n'y avait pas beaucoup de moustiques. Et donc, une des causes de ce cancer, c'était le palud. Hein, donc, la conjugaison de trois éléments, le paludisme, la malnutrition, et puis la présence du virus d'Epstein-Barr.
Bien, je reviens à vous tout à l'heure. On est temps d'accueillir le docteur Karim, qui est aussi pédiatre aux cliniques universitaires de Kinshasa. Docteur Karim, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Jeudi.
Bien, nous parlons aujourd'hui des cancers pédiatriques, et particulièrement du rétinoblastome, qui... les rétinoblastomes, vous enregistrez beaucoup de cas chaque année aux cliniques universitaires de Kinshasa. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour une meilleure prise en charge des cas des rétinoblastomes?
Ah, ça c'est une grande question. Qu'est-ce qu'il faut pour une meilleure prise en charge, honnêtement? Ce que je peux dire là tout de suite, c'est que pour une meilleure prise en charge du rétinoblastome et du cancer de l'enfant de façon générale, il ne faut pas que la famille soit seule. Si la famille est laissée seule, c'est très difficile d'avoir une meilleure prise en charge. Mais quand il y a une conjugaison des efforts de gauche à droite, c'est-à-dire la famille, le voisin, l'instituteur au niveau de l'école, les décideurs politiques, les secteurs privés, etc., alors à ce moment-là, il y aura déjà la conjugaison d'une meilleure prise en charge. Et en pratique maintenant, côté médical, l'un des éléments clés qui permet une meilleure prise en charge du rétinoblastome, c'est le diagnostic précoce. Mais bien évidemment, on ne pourra pas arriver au diagnostic précoce si tous les acteurs que je viens de citer là, tout autour de cet enfant malade, ne conjuguent pas les efforts. Alors, je peux atterrir en disant, effectivement, la meilleure prise en charge du rétinoblastome est possible en Afrique par des médecins africains, dans des hôpitaux africains, et c'est guérissable à 100%.
Bien, c'est guérissable à 100%.
Oui, c'est guérissable à 100%, et c'est mieux que le paludisme.
Mais ça se complique quand les parents arrivent à un stade avancé de la maladie.
Ah oui, bien évidemment, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des signes précoces pour lesquels les parents ne peuvent pas rater, les parents ne peuvent pas du tout rater les signes précoces. Je pense que mes collègues avant moi ont sûrement déjà parlé des signes précoces du rétinoblastome. Donc on ne peut pas rater les signes précoces du rétinoblastome. Donc à ce moment-là, si on fait la prise en charge correctement, à temps, par une équipe compétente, à ce moment-là, la guérison est à 100%. Mais quand on arrive tardivement, les traitements est approximatifs, donc c'est vraiment, la guérison n'est pas du tout garantie, ça coûte très cher, avec des séquelles difficiles, et nous, étant un pays où quand même la majorité de la population a des faibles revenus, on ne peut pas accepter ces diagnostics tardifs. Parce que sinon, souvent, ça aboutit vers la mort de l'enfant.
Bien, docteur Domo vient aussi de nous rejoindre dans ce studio, juste après docteur Nguyulu. Alors, pourquoi la prise en charge du cancer coûte trop cher dans notre pays?
Alors, ce qu'on doit savoir, c'est que le cancer est une maladie grave. Et que ce n'est pas que dans notre pays que la prise en charge du cancer coûte extrêmement cher. Il paraît plus cher parce que ailleurs la prise en charge, il y a des assurances, hein, maladie, ce qui n'est pas le cas dans notre pays. Et le frais, donc la prise en charge sur le plan financier est totalement à charge de la famille. Alors, comme le venait de le dire
Dr.
Hassani.
Par exemple, on a appris que la chimio, par exemple, la radiothérapie et une séance vous coûtera peut-être dans les 4 000 $.
Voilà, donc ça varie entre 2 000 à 4 000 $. Ça, c'est pour la radiothérapie, pour les formes très avancées extraoculaires, comme on venait de le dire. Mais aussi les anticancéreux en soi, ils coûtent extrêmement cher sur le marché. D'abord, il est difficile pour en trouver sur le marché. Et lorsqu'on en trouve, il coûte extrêmement cher. Alors là, on a quand même des appuis, comme je venais de le dire. Il y a certains partenaires qui nous aident, en tout cas tant soit peu, dans le don de certains anticancéreux pour la prise en charge de...
Comme Future Team RDC.
Future Team RDC, le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique, qui nous envoie les médicaments, les anticancéreux, pour la prise en charge de ces enfants. Mais il faut comprendre que de plus en plus, qu'on s'est mis dans cette sensibilisation des cancers de l'enfant, on a de plus en plus des nouveaux cas. Alors, les médicaments que nous recevons ne pourront pas suffire, ne suffisent pas pour prendre en charge tous ces cas là. Diagnostiqués. Voilà.
On va accueillir Patrice Mauderoy depuis, j'imagine, depuis Bukavu, Célestine. Patrice, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour aux invités et à tous les auditeurs de la radio Rapi.
Quelle est votre préoccupation?
Ok, merci. J'aimerais savoir pourquoi la prise en charge de cette maladie est beaucoup plus laissée à la population au moment où c'est l'État qui devrait s'occuper de cette maladie. Dédé, je sais qu'ici à RDC, il y a beaucoup de spécialistes qui s'occupent de cette maladie. Mais pourquoi les taux de contamination ne cessent de s'augmenter? Et en fait, quelle est la meilleure solution pour lutter efficacement contre cette maladie? Merci.
Voilà, la prise en charge, et pourtant il y a beaucoup de spécialistes dans le pays, et pourquoi les cas sont toujours en augmentation, docteur Renengiolo?
Prise en charge, cher frère, je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup de médecins qui sont compétents à prendre en charge le cancer de l'enfant. Il faut vous dire que...
Il y a des pédiatres, mais il faut une formation
absolument
spécialisée.
Oui. C'est-à-dire que l'oncologie, c'est-à-dire la cancérologie pédiatrique, c'est une super spécialité. Ce n'est pas, on ne voulait pas traiter un enfant qui a un cancer dans n'importe quelle structure de la cité n'importe quelle structure médicale. Il faut non seulement une équipe de médecins qui connaissent la matière, mais également une équipe d'infirmières qui sont formées pour ça. Parce que n'oubliez pas qu'il y a plein de choses qu'il faut, plein de préalables qu'il faut remplir avant de traiter la maladie. Notamment l'asepsie rigoureuse, deuxièmement la connaissance même des médicaments, parce que j'aime toujours donner cet exemple. Une goutte, une seule goutte d'adriamycine à l'extérieur de la veine, ça fait une brûlure de troisième degré. Et donc, il faut bien que l'infirmière soit bien au courant de ça. Et quand il a
sinon, il va faire des dégâts.
Ah oui, bah, écoute. Et quand c'est mis dans la veine, cette veine doit être rincée pour qu'il n'y ait pas des problèmes au niveau local. Et puis, il y a des médicaments, vous devez porter des lunettes. Parce qu'une éclaboussure, n'est-ce pas, une goutte de ces médicaments dans l'œil est foutu. Et alors donc,
On peut dire que la plupart des cas de rétinoblastome que vous recevez, combien de pourcentage de guérisons et combien de décès enregistrés cette année par exemple?
Ben écoute, je vais peut-être donner la parole au docteur Domo, mais ce qui est certain, c'est que beaucoup de cas nous arrivent en retard. Parce que les gens ne savent pas. Ou qu'ils savent,
mais ils n'ont pas de moyens.
Ils n'ont pas de moyens. Ou qu'ils savent aussi, mais ils prennent ça pour un problème de sorcellerie. Et donc, nous avons rarement des cas qui nous arrivent à temps. Mais ceux qui nous arrivent à temps, ça marche bien. D'ailleurs, nous sommes en train de faire, c'est maintenant que nous sommes en train de faire une étude pour évaluer l'efficacité de nos traitements. Parce que maintenant, comme a dit Dr Bourou, nous recevons les médicaments de la GFAOP, donc le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique.
Voilà, on s'achemine petit à petit vers la fin de cette émission. Docteur Karim, qu'est-ce qu'il faut pour intensifier la sensibilisation autour des cancers pédiatriques?
En fait, ce que je peux dire, c'est que premièrement, pour intensifier cette sensibilisation, il faudrait que les gens comprennent que les cancers existent chez l'enfant. Le cancer existe chez l'enfant. Malheureusement, c'est une notion que beaucoup de personnes ne savent pas, mais c'est une réalité. Deuxièmement, ce sont des cancers guérissables. Guérissables, c'est-à-dire que nous avons parlé de 100% de possibilités de guérison pour les rétinoblastomes, et c'est une réalité dans beaucoup de centres dans le monde. Et il y a très peu de cancers adultes où il n'en existe pratiquement pas. Un cancer guérissable à 100%. Troisièmement, ces cancers de l'enfant, comme l'a dit le prof Yulou, ça ne se soigne pas dans n'importe quel centre. Actuellement, il y a deux centres en RDC qui se sont vraiment spécialisés dans le soin de cancer de l'enfant. Il y a les cliniques universitaires de Kinshasa au service d'oncologie pédiatrique et il y a à Lubumbashi, il y a une unité d'oncologie pédiatrique au niveau de l'INILU, hein, de clinique universitaire de Lubumbashi. Et quatrièmement, c'est que on ne peut pas y arriver seul, parce que certaines personnes arrivent en retard, parce qu'effectivement, ils n'avaient même pas le transport pour arriver à l'hôpital. Donc, on a besoin d'appui tout autour de cet enfant malade pour pour permettre à ce que ces cancers soient détectables tôt et guérissables. Et par la suite, ceci dit, pour pouvoir favoriser ce diagnostic précoce, il faut véritablement que tout le monde s'élève comme un seul homme et dise « Le cancer de l'enfant peut être vaincu et nous pouvons mettre le moyen dessus et on va y arriver ». Alors là, c'est à ce moment-là qu'on pourra aller de l'avant pour le cancer de l'enfant.
D'accord. Merci beaucoup, docteur Karim. Alors, docteur Domo, votre dernier mot. Qu'est-ce qu'on doit faire pour intensifier, par ce que docteur Karim vient de dire?
Alors,
intensifier la sensibilisation.
Intensifier la sensibilisation, comme il venait de le dire. De plus en plus, lorsque nous regardons la courbe des nouveaux cas, on voit que ça va en exponentiel parce que les gens et surtout les professionnels de santé qui reçoivent en premier lieu les malades, ils sont de plus en plus au courant que le cancer de l'enfant existe. C'est pour ça que on a de plus en plus des nouveaux cas. Ce n'est pas que les cancers de l'enfant n'existaient pas et que maintenant on en découvre. Non, il a toujours existé, mais seulement on doit prendre conscience, surtout les professionnels de santé, parce qu'ils sont en avant-plan de lorsqu'ils reçoivent ces malades.
Voilà, donc il y a besoin de les sensibiliser davantage.
Davantage par rapport à cela. Par rapport aux signes précoces, surtout des cancers chez l'enfant.
Docteur Ngiyulu, on va terminer avec vous. Les cancers pédiatriques, c'est une réalité dans notre pays. Les parents n'ont pas assez de moyens. L'État, apparemment aussi, le gouvernement ne met pas assez de moyens. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on va continuer à compter sur les partenaires pour une bonne prise en charge?
Belle question, cher ami. Je pense bien que les partenaires sont là, les partenaires aussi sont limités parce que ces partenaires ils demandent des moyens aux bailleurs de fonds et quand les bailleurs de fonds n'ont pas de possibilités, il n'y a pas de coopération. Donc nous allons en sensibilisation non seulement de la population, d'abord du personnel de la santé, et nous allons former des formateurs. Ces formateurs en cascade vont former d'autres pour les sensibiliser sur le cancer des enfants. Mais comme Dr Domo a dit, il y a des malades qui ne peuvent pas atteindre l'hôpital parce qu'ils n'ont pas de moyens. Donc nous sommes également obligés de sensibiliser l'État congolais. Et donc nous sommes dans cette phase-là. Nous avons demandé audience au ministre de la Santé. Nous allons demander audience au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Nous allons demander audience au ministre des affaires sociales,
etc. Oui,
etc. De la recherche scientifique, pour qu'ils soient sensibilisés. Parce que, comme a dit Karim, pour résumer, le cancer de l'enfant existe. L'enfant est un individu en plein développement. Et donc, le cancer est rapide, est dans l'évolution rapide.
Mais il semble qu'il est très sensible à la chimio.
Sensible, disons,
à la radio.
Non, guérissable.
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 Ok.
Ok. Et donc, si on y met, eh ben, il y a des enfants qui seront guéris. Et
les taux à 100%, on a dit. Hein.
Ah, oui, il y a des guéris.
Diagnostiqué précocement, prise en charge à temps.
Voilà.
Merci docteur René Ngiyulu, merci docteur Domo et docteur Karim d'avoir participé à cette émission.
C'est nous qui vous remercions. Merci.
À la prochaine.